Alors moi j'aurais juste une question, une précision en tout cas. Vous nous avez parlé, j'espère que j'ai bien compris, j'ai retraduit ça à ma sauce, que l'espace c'était une portion de la surface de la Terre, grosso modo, où jouent des forces, que le milieu en géographie il est assez anthropisé, oui. Il me semblerait. Moi j'aimerais avoir votre avis sur la notion de service écosystémique en géographie. Comment est-ce que c'est abordé? Comment vous présentez ça aux élèves, que ce soit au collège ou au lycée d'ailleurs, ou au primaire d'ailleurs, qu'il faut pas du tout oublier, même si on est dans les matières. Voilà.
Mais en fait, non, on ne le présente pas. La question des services écosystémiques, non. Parce que comme je vous l'ai montré dans le schéma, la géographie s'est emparée du concept d'écosystème dans les années 80, quand elle a essayé de dépasser les approches cloisonnées qu'elle avait. C'est-à-dire qu'on travaillait en géographie physique, géomorphologie, études des reliefs, biogéographie, études du couvert végétal, hydrologie, climatologie, etc. Donc le concept d'écosystème a été introduit pour introduire une dimension systémique. Mais en fait, le concept d'écosystème s'est vite révélé inapproprié à l'échelle d'études de la géographie. Et donc, il est tombé un peu en désuétude, il a été marginalisé dans les programmes, puis ensuite il a disparu et il a été remplacé, mais de façon très temporaire, par le concept de géosystème au début des années 90. Et le concept de géosystème lui-même a disparu des programmes dans le courant des années 90. Et à l'heure actuelle, donc l'approche de type écosystémique n'existe plus en géographie. Dans la mesure où la géographie s'est vraiment recentrée sur une approche sociale. Et donc, il y aurait une nécessité à travailler sur les services rendus par les écosystèmes. Parce que dans les territoires, les écosystèmes, ils y sont. Et nous, on travaille sur la gestion des territoires. Mais ça n'est plus dans notre champ. Et il n'y a plus non plus dans le corps enseignant qui enseigne la géographie de personnes compétentes dans ce domaine. Bon, je m'explique. La géographie, on est une discipline un peu particulière, parce qu'on est intégré dans le cadre d'un binôme scolaire qui est l'histoire-géographie. Et au fil du temps, et de façon très accentuée ces dernières années, la composition de ce corps a fortement évolué vers une écrasante majorité des historiens. Donc en fait, la géographie est enseignée par des historiens. On compte, même si le recensement est un peu approximatif, on compte qu'il y a 80% d'historiens dans les professeurs d'histoire-géographie et seulement 20% de géographes. Parmi ces 20% de géographes, ceux qui sont les plus âgés, enfin anciens, expérimentés, je ne sais pas comment on peut dire, voilà, ont connu une approche de type géographie physique, mais une approche très classique où la question de l'écosystème était à la limite à la marge. Et ceux qui ont une formation plus récente n'ont pas connu cette approche de géographie physique, parce qu'au niveau universitaire, la géographie physique a été fortement marginalisée. Alors, dans certaines universités, plus que dans d'autres, mais disons globalement, la géographie physique s'enseigne peu pour elle-même. Et au niveau universitaire, les futurs géographes ont peu de connaissances sur l'écosystème. Ils ont beaucoup plus de connaissances sur les questions de paysage, de risque, etc. Beaucoup plus que sur l'écosystème. Donc il n'y a pas de compétences dans le corps des enseignants d'histoire-géographie pour aborder cette question des services écosystémiques. Donc du coup, si elle est abordée, elle est abordée parce que l'enseignant en a une connaissance par ailleurs, ils sont venus d'autres lectures, peut-être un peu médiatiques, et elle n'est pas abordée de façon approfondie. Et sur un point comme celui-là, il y aurait nécessité à travailler avec les sciences de la vie, justement, pour croiser les regards.
Merci. Je trouve intéressant ce que vous nous avez présenté. Moi, je suis dans le premier degré.
Oui.
Alors, autant l'articulation éducation, développement durable ou pour un développement durable, chez nous, dans le primaire, cette frontière, elle est très, très floue, voire inexistante. L'interdisciplinarité que vous avez présentée, et également pour nous, ça ne pose pas de problème. Souvent, on le fait, on passe de l'un à l'autre très très facilement. En revanche, je suis un petit peu piqué là par ce que vous présentez comme projet avec les sixièmes, et vous n'avez pas développé les résultats parce que. Il me semble que vous avez dû rencontrer pas mal de difficultés à mettre
ça en place
au sein d'un collège.
Oui.
Et ces difficultés, vous avez su les dépasser, j'imagine. Est-ce que vous pourriez nous exposer très rapidement les points délicats, les obstacles que vous avez rencontrés et surtout comment vous avez pu les dépasser?
Bon, les points, oui, je peux vous les exposer. Comment on les a dépassés, je peux vous dire comment aussi on n'a pas réussi à les dépasser. Donc disons là, l'objectif, c'était pas que je développe l'exemple, c'était juste pour vous montrer qu'autour d'un paysage ordinaire de proximité, on pouvait faire quelque chose. Bon, les points de difficulté, ça a été d'abord d'arriver à ce que les collègues sortent des ancrages disciplinaires qu'ils avaient et des habitudes disciplinaires qu'ils avaient. Même si les collègues qui se sont engagés dans le projet étaient des collègues qui étaient ouverts à l'interdisciplinarité puisqu'ils s'engageaient dans ce projet, malgré tout, il restait des ancrages et le dialogue n'a pas toujours été facile. Alors, en particulier, j'ai trouvé, c'est dommage que Jean-Marc soit sorti, que le dialogue était beaucoup plus difficile à établir avec les sciences, les SVT, qu'avec les autres disciplines, en particulier les arts plastiques. Bon, pourquoi ? Parce que en SVT, comme en géographie d'ailleurs, le programme est conçu sur la base d'une succession de thématiques, ce qui laisse une marge de manœuvre assez limitée. Et dans cette succession de thématiques, en début d'année, il est prévu de travailler sur le milieu local, comme en géographie, il est prévu de travailler sur le territoire local. Donc c'est assez facile de travailler. Par contre, travailler dans le cadre d'une première séance, conjointement, sur le milieu et le territoire local, c'est assez facile, mais après, on a besoin d'y revenir. Or, très vite, on est pris par la progression qui est imposée dans chacune des disciplines, et on n'arrive pas à revenir sur cette thématique, parce que la progression dans chacune des disciplines, par rapport à cet ancrage de départ, est divergente. Et donc, on n'arrive plus après à établir les liens. Donc en fait, c'est plutôt apparu, plus qu'un travail de convergence en interdisciplinarité, ce qu'on voulait faire. Dans les faits, c'est plus apparu comme un point de départ, un questionnement commun, pour ensuite aller chacun dans sa discipline. Bon, ce qui est forcément quelque chose d'un petit peu limité. Par contre, en art plastique, l'articulation a été beaucoup plus facile, parce qu'en art plastique, les entrées dans les programmes sont davantage mentionnées en termes de compétences. Et donc, ils ont pu, dans le cadre de leur progression propre, travailler sur l'approfondissement de certaines compétences et revenir donc sur le questionnement de départ. Bon, j'explique. Il y a un point en particulier qui a posé beaucoup de problèmes, c'est la question de la construction de l'image sur le rond-point, c'est-à-dire ce qui est vu, ce qui n'est pas vu. La question de la visibilité, quand on est dans une position ordinaire de fréquentation du lieu, on ne voit pas ça. Mais par contre, si on change de point de vue, si on monte en hauteur ou si on regarde une carte, une photographie aérienne, etc., on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas vues, etc. Donc cette question du visible et du non-visible, c'est quelque chose de très difficile. Donc dans le cadre du point de départ dont je vous ai parlé, de croisement entre les disciplines au départ, on peut juste constater les choses, mais ça n'est pas réellement quelque chose d'acquis. Donc la construction d'une image à partir du visible et du non-visible. Par contre, en art plastique, ils ont pu travailler sur d'autres objets, mais sur je dessine ce que je vois, je change de point de vue, je dessine ce que je vois en changeant de point de vue, et donc travailler sur ce va-et-vient entre un point de vue et un autre point de vue. Donc ils ont pu travailler en termes de compétences et donc revenir sur, mais alors par rapport à ce qu'on avait vu en début d'année, là, on perçoit mieux les choses. Voilà donc les principaux points auxquels on s'est heurté. On est arrivé même, bon, parce que ça c'est juste un exemple qui a servi un peu de test en fait. Après on a essayé dans d'autres secteurs et avec d'autres niveaux de classe. Et en fait la construction réellement de convergence, quoi, comme on le souhaitait au départ, on n'y est pas réellement arrivé. Donc en fait on a distingué un peu différentes logiques. Une logique qui est celle que je vous décris là, qui est appropriée finalement au programme de sixième, où on peut démarrer à partir d'un questionnement commun et ensuite chacun travailler dans des disciplines tout en ayant quand même en arrière-pensée et puis avec des allusions, on peut travailler les ponts avec la discipline, mais chacun retourne dans des approches disciplinaires. Et comme je vous le disais, il n'y a que les arts plastiques qui peuvent réellement revenir sur le point de départ. Les autres sont amenés dans des logiques divergentes. Donc il y a cette logique-là, point de départ commun, pour finalement étayer des logiques disciplinaires, mais qui seront quand même un peu transformées par le fait qu'il y a un point de départ commun. Ensuite, dans d'autres secteurs et avec d'autres niveaux de classe, on a essayé de travailler le fait qu'on travaillait chacun dans son coin, hein, chaque discipline dans sa logique, mais chaque discipline ayant en perspective que c'est travaillé par le collègue. Hein, donc, travailler des passerelles, des allusions, des passerelles, etc. Dans une logique disciplinaire, parce qu'on n'a pas réussi à construire, du fait des contraintes de programme, hein, on n'a pas réussi à construire mieux. Et puis ensuite, une logique qu'on n'a pas réellement testée jusqu'au bout, mais qui nous a semblé pertinente, c'est une logique de confrontation. C'est-à-dire, plutôt que de se dire, bon, ben, on est chacun dans sa logique, mais on essaye de faire des passerelles pour montrer la cohérence aux yeux des élèves, mais adopter un point de vue radicalement différent et dire « moi je suis dans ma logique, je développe ce point de vue ». L'autre discipline est dans sa logique, développe ce point de vue. Et au final, confronter les points de vue. Donc dans une logique de confrontation pour susciter un débat entre les disciplines. Donc ça, on envisageait de le mettre en place en classe de troisième, hein, où les élèves sont plus matures, et uniquement entre géographie et arts plastiques, dans la mesure où bon, les SVT sont moins appropriés en troisième pour entrer dans la question du paysage. Et on envisageait, j'espère que ça va pouvoir se faire cette année, mais bon... les conditions de fonctionnement sont un peu changées cette année, on envisageait de travailler sur la question des schémas prospectifs, c'est-à-dire en troisième, la géographie peut travailler à partir de documents, de ce que les acteurs développent comme schémas prospectifs, etc., à partir de zones à aménager, hein, dans le territoire local. Elle peut travailler sur les explicitations, pourquoi ces projets, pourquoi ces choix, etc. Et les arts plastiques, au contraire, de façon beaucoup plus débridée, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme installation pour marquer le territoire, pour créer une identité à ce territoire, par exemple là, sur le rond-point, on va créer autre chose sur le rond-point pour... on peut imaginer qu'on n'a pas envie de renforcer le caractère patrimonial, mais au contraire de renforcer autre chose en termes d'identité de la vallée, etc. Donc, et après, confronter les logiques, une logique beaucoup plus créative, imaginative, prospective aussi, et une logique prospective d'analyse de ce que d'autres ont prévu. Et donc, c'était un peu ce qu'on envisageait. Et c'est très, très difficile. En fait, on ne s'imaginait pas que c'était aussi difficile au départ.
Oui. Donc, moi, je voulais voir un petit peu, justement, avec vos deux interventions de la matinée. On a bien senti l'intérêt énorme pour réussir à réellement éduquer au développement durable, de jouer avec toute cette interdisciplinarité. Donc, on peut essayer, nous, au quotidien, d'avoir ces impacts sur essayer de créer des groupes de travail. Mais après, je trouve que ça reste une volonté de l'enseignant d'essayer de construire ce projet. Je trouve qu'au travers de tout ce qui ressort des différents diaporamas, il faudrait réussir à impulser cette dynamique au sein de l'éducation nationale. Est-ce que vous avez des rencontres avec des décideurs sur les programmes, sur comment on pourrait essayer de travailler ce thème-là dans les années futures? Est-ce que vous avez des portes d'entrée comme ça qui s'ouvrent?
Moi, j'ai plutôt l'impression de portes qui se ferment. Enfin, je ne veux pas être négative, mais en géographie, donc je vous le disais, il y a d'abord eu une première étape où on a relu les anciens programmes à la lumière de la circulaire EDD. Où donc, c'était une relecture des anciens programmes, donc qui du coup autorisait à beaucoup de choses, puisqu'on on était autorisé par la hiérarchie à relire les anciens programmes avec une marge de liberté pour entrer dans cette logique EDD. Et les nouveaux programmes, je trouve, sont une fermeture, parce qu'ils intègrent le développement durable comme un point disciplinaire, comme un autre. Et la dimension EDD n'est pas mentionnée dans les préambules de ces programmes. On parle de développement durable, mais on ne parle pas d'éducation au développement durable. Et bon, j'ai été amenée à faire des interventions dans le cadre de la mise en place de ces nouveaux programmes, où j'ai un peu questionné la hiérarchie locale, en tout cas, sur, bon, ben, c'est pas écrit dans les programmes, mais comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce qu'on vous recommande de voir les choses? Et en fait, bon, je n'ai pas eu de réponse. Donc moi, évidemment, dans mes interventions, j'ai insisté sur le fait qu'il y avait à la fois les instructions officielles, les nouveaux programmes, mais il y avait aussi cette circulaire de 2007 et qu'il fallait penser à les mettre en relation. Mais il faut reconnaître que rien n'est donné pour aider les enseignants à faire cette mise en relation. Et les enseignants, moi, ce que je constate dans mon académie, en tout cas, c'est qu'ils sont quand même assez déstabilisés par l'introduction de ce point d'enseignement sur le développement durable, parce que ils sentent bien que c'est quelque chose qui n'est pas étayé au niveau de la géographie universitaire. C'est quelque chose qui est en débat, donc ils sentent quand même que c'est pas tout à fait un objet d'étude comme un autre. Mais comment dire, ils sont mal à l'aise par rapport à l'enseignement du développement durable. Donc, ils sont encore plus mal à l'aise pour aller vers une éducation au développement durable, pour prendre une marge de liberté et d'autonomie par rapport aux textes officiels qui ne disent pas « il faut mettre en relation » ou « vous pouvez mettre en relation de cette façon ou de cette façon ». Donc, enfin, je ne sais pas comment c'est en SVT, mais moi, je trouve que ces nouveaux programmes sont un peu une sorte de fermeture. Pas forcément définitive, mais dans les médias, oui.
Globalement, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Écoutez, non, on n'est pas écouté. J'ai plutôt aussi l'impression, un sentiment de fermeture depuis peu de temps, en fait, un an ou deux, hein, une refermeture, un renfermement sur les disciplines après être passé par une phase un peu euphorique d'ouverture. Et j'ai bien l'impression que la circulaire de 2007 est un peu oubliée. Alors, ce qui me rend optimiste, c'est d'abord, voilà, vous êtes là, donc ça intéresse des gens, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a toujours, au niveau de l'UNESCO, il y a toujours la décennie qui existe. La volonté internationale existe toujours. Et au niveau européen, elle est clairement réaffirmée. Donc on peut espérer que cette phase de reprise en main ou de renfermement dans les disciplines finisse par changer et être dépassée à nouveau. Mais effectivement, on n'est pas... De toute façon, actuellement, les recherches en éducation ne sont pas particulièrement écoutées en France. On a beaucoup d'autres oreilles ailleurs, mais en France, pas tellement. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau de cette maison.
Pour vous donner un exemple, là, le travail que je vous ai présenté, c'est une commande, hein, en fait, au départ du rectorat, donc en 2000, juste après la sortie de la circulaire, 2007, parce qu'il avait été identifié des difficultés à articuler la dimension éducation, etc. Et voilà, et maintenant ça n'est plus. Enfin, c'est pas que c'est plus d'actualité, je veux dire, les résultats sont utilisés, enfin bref, etc. Mais je ne suis pas sûre que maintenant on lancerait une commande de ce type. C'était dans un contexte bien précis. Là maintenant, ce serait sous un autre angle. Parce que ce qu'on nous avait donné à travailler, c'était paysage et éducation au développement durable. Maintenant,
oui, on a vraiment l'impression que,
je crois pas que les ce aspects éducatifs
sont oubliés. Ouais. Ouais. Mais on a toute l'après-midi hein, pour essayer de clarifier ça à partir de vos expériences. C'est-à-dire ouvrir, hein, moi je crois beaucoup à ça, ouvrir les possibles. Et en ouvrant les possibles, on rend les choses faisables et réelles. Sinon, le système génère ce qui est le plus facile, c'est-à-dire effectivement le découpage en disciplines. On fait comme on a l'habitude de faire, ça remet personne en cause, tout va bien et c'est ce qui est le plus facile et évident. Hein. On peut faire pareil avec les SVT et dire voilà, les SVT, on s'occupe de la biosphère, de la biodiversité et puis voilà, on pourrait dire ça. Mais ça voudrait dire en même temps qu'on n'a rien compris. Donc, je trouve ça grave. Juste pour rajouter sur ce que vous venez de dire, dans un aspect positif de la masterisation, On peut impulser des choses nouvelles, je trouve. Pour la première fois cette année, alors que ça fait 15 ans que je m'occupe de la formation des enseignants, j'ai pu mettre en place, on a dans notre master une formation transversale sur la modélisation et donc avec des rencontres entre profs de SVT, enfin futurs étudiants en tout cas de SVT, de mathématiques, de sciences physiques et qui planchent et qui apprennent et qui ont des examens à passer et donc ils sont obligés de s'interroger sur ces choses-là alors qu'il n'y avait pas la place avant. Donc il y a des leviers de transformation qui peuvent exister aussi.
Par rapport à ce que vous disiez, là, bon, c'est vrai, il ne faut pas attendre l'autorisation venue d'en haut, on a une marge d'autonomie, mais il n'empêche que il y a quand même une crainte de la part de beaucoup à s'éloigner des recommandations, des instructions officielles, et quelques mots simplement peuvent libérer beaucoup et faire que les collègues vont s'engager en se sentant entre guillemets sécurisés. Moi, je l'ai vu à partir de cette relecture des programmes, qui était trois fois rien. Hein. C'était trois fois rien, c'était dire là, vous pouvez ceci, là, vous pouvez cela. D'accord ? Et donc, ça a quand même libéré pas mal. Et en formation continue, les collègues nous questionnaient, bon, alors, comment on peut faire, jusqu'où on peut aller ? Et donc, là, on avait une marge d'ouverture qui existait. Alors que cette marge d'ouverture, là, elle n'existe pas du tout dans les nouveaux programmes. Il n'est pas dit, dans le cadre d'une articulation avec la circulaire de 2007 de l'éducation au développement durable, vous pouvez... Non. Donc, ça joue beaucoup, ça aussi, quand même. Hein. Pas forcément un cadrage d'en haut, mais flécher les portes ouvertes.